sur France Culture, il est 12h30. Pile, Antoine, merci. On vous retrouve pour les informations. Bonjour Antoine.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Exécution collective en Égypte, 15 djihadistes condamnés à mort pour avoir tué des soldats égyptiens dans le Sinaï ont été pendus ce matin. Correspondance de François Hume, Ferkataji dans un instant. La guerre s'intensifie encore au Yémen. Hier, les combats ont fait plus de 60 morts sur différents fronts. Dans la province de Hodeïda, c'est dans l'ouest du pays. Précision avec Nadine Epstein. Un militant chinois des droits de l'homme condamné à 8 ans de prison, la peine la plus lourde infligée ces dernières années dans ce type de dossier, analyse à Pékin avec Angélique Forger. Et puis la montée en puissance de l'Asie dans l'économie mondiale, selon un institut de recherche britannique, l'Inde pourrait devenir l'an prochain la 5e puissance économique mondiale et donc dépasser ainsi la France et la Grande-Bretagne. Compte rendu de cette enquête avec Hakim Kasmi, on dira un mot de la situation sociale en France. La direction de l'entreprise GE Hydro soumet aujourd'hui le plan de transformation de l'entreprise à la direction régionale. Un plan social toucherait environ 40% des effectifs, 345 postes, dossier suivi par Annabelle Grelier. La seconde invitée de la semaine pour tenter de retrouver le fil de l'actualité, la philosophe Myriam Revaud-Allonne est avec nous dans la dernière partie de la Grande Table. Raphaël Bourgois.
Eh bien, on va explorer, Antoine, ce qu'on appelle aujourd'hui une ville. La question peut paraître simple. Elle ne l'est pas tant que ça et on va en parler avec l'architecte Christiane Blanco qui est directrice d'études villes et formes urbaines à Lapure et avec le philosophe de l'urbain Thierry Pacaud.
C'est la plus importante exécution collective en Égypte depuis plusieurs années. 15 djihadistes, donc condamnés à mort pour avoir tué des soldats égyptiens dans le Sinaï, viennent d'être pendus ce matin. L'insurrection islamiste, on le sait, dans cette région a fait des dizaines de morts dans les rangs de l'armée, de la police. Il y a un mois, une attaque contre une mosquée dans un village situé près d'Al-Arish, dans le nord Sinaï, avait fait plus de 300 morts. Et le président Abdel Fattah al-Sissi avait alors donné 3 mois au commandement militaire pour sécuriser, c'était son expression, la péninsule. On est en ligne avec François Hume, Ferkataji, bonjour.
Bonjour.
Manifestement, le pouvoir met en œuvre, on le voit, les moyens les plus radicaux pour lutter contre ce terrorisme dans le Sinaï.
Oui, alors ces 15 hommes qui ont été pendus dans deux prisons différentes du pays avaient été reconnus coupables pour des attaques contre des militaires et des policiers dans le Sinaï, vous l'avez dit. En revanche, difficile d'en savoir plus, car dans le cadre de la justice militaire, il est très difficile pour les avocats d'avoir accès au dossier. Une question cependant, est-ce que ces pendaisons seraient une forme de revanche ? La semaine dernière, les combattants de l'État islamique ont diffusé une vidéo montrant une attaque au missile anti-char contre l'aéroport d'El-Arish, la capitale du Nord Sinaï. Or, au même moment, les ministres de la Défense et de l'Intérieur étaient en visite dans la région, notamment pour annoncer leur intention d'en finir avec les insurgés fondamentalistes. 2 officiers ont été tués, 1 hélicoptère endommagé, et cet épisode a forcé l'armée à publier des images des 2 ministres rentrant au Caire dans un avion privé en précisant qu'ils étaient sains et saufs. Bref, une preuve de faiblesse absolue pour l'armée égyptienne, ces images donnaient l'impression d'une retraite forcée. Alors le nombre de condamnations à mort a explosé en Égypte. Pour les seules années 2014-2015, plus de 1000 personnes, majoritairement des sympathisants des Frères musulmans, ont écopé de la peine capitale. Les peines sont rarement appliquées, mais le nombre de personnes exécutées en Égypte a lui aussi fortement augmenté. Une pendaison par exemple en 2011, 0 en 2012. L'année dernière, en revanche, 44 personnes ont été pendues. Une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme en Égypte demandent que le Caire abolisse la peine capitale.
François Hume, Ferkataji, merci. Donc vous étiez en direct du Caire avec nous.
La guerre s'intensifie encore au Yémen, notamment depuis le tir par des rebelles d'un 2e missile balistique sur Riyad la semaine dernière. Le conflit a pour trame la rivalité croissante entre Riyad et Téhéran.
Oui, puisqu'il oppose donc les rebelles houthis qui sont alliés de l'Iran aux forces pro-gouvernementales qui sont, elles, soutenues par l'Arabie Saoudite. Hier, des combats ont fait plus de 60 morts sur les différents fronts de cette province d'Hodeïda dans l'ouest du pays. Les deux camps dépêchent d'importants renforts sur les lignes de front. Ceux des Houthis sont pris pour cible donc par l'aviation de la coalition, tandis que les forces gouvernementales n'arrivent pas à progresser vers le nord en raison de la présence notamment d'Aïn Epstein de champs de mines. C'est une situation évidemment extrêmement chaotique et dont on parle assez peu finalement.
Et c'est un conflit qui reste largement oublié, dénoncent les ONG qui travaillent au Yémen et qui alertent sur la gravité de la dégradation situation quotidienne du pays. Actuellement, les combats sont de plus en plus violents dans la province de Hodeïda. Et vous l'avez dit, pour la seule journée d'hier, plus de 60 Houthis et soldats pro-gouvernementaux ont été tués. L'Arabie Saoudite a mené conjointement des attaques aériennes et terrestres sur la ville et le port, contrôlés par les insurgés. Le port de Hodeïda sur la mer Rouge est le principal point d'entrée des importations du pays. La coalition dirigée par Riyad bloque les cargaisons, affirmant vouloir empêcher l'approvisionnement d'armes des Houthis. Pourtant, la semaine dernière, l'Arabie Saoudite avait promis de laisser le port de Hodeïda ouvert pendant 30 jours pour l'aide humanitaire et les bateaux transportant nourriture et carburant, mais elle a amplifié ses raids. Ce conflit a déjà tué plus de 8750 personnes, dont beaucoup de civils, et a plongé le Yémen dans une crise humanitaire sans précédent. Plus de 80% de la population manque de vivres, d'eau potable, de soins et de médicaments. 1 million de Yéménis, dont un tiers d'enfants, sont atteints du choléra. 2500 malades en sont déjà morts. Et en plus de 2 ans de guerre, les infrastructures ont été détruites, comme les stations de pompage d'eau. Une grande partie du nord du pays, où les deux camps, Houthis et militaires gouvernementaux, ont renforcé leur position, constitue aussi un danger par la présence de champs de mines, des bombes à retardement. Les Yéménites qui veulent quitter ce chaos sont de plus en plus nombreux. Les réfugiés qui voulaient entrer aux États-Unis étaient bloqués par les restrictions imposées par Donald Trump à 11 pays. Mais hier, un juge fédéral de Seattle a estimé illégales les décisions du président américain et a ordonné au gouvernement de reprendre le programme d'admission de réfugiés des 11 pays, dont le Yémen, la Syrie, l'Égypte et la Libye.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Israël en contact avec au moins une dizaine de pays pour le transfert de leur ambassade à Jérusalem dans le sillage des États-Unis, c'est ce qu'affirme la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Hotovely, laquelle ne donne pas le nom de ces pays susceptibles donc de suivre la décision américaine. La Russie entreprend d'établir une présence militaire permanente dans ses bases syriennes près de Tartous, initiative qui vise surtout à cimenter donc cette présence russe dans la région, alors que Moscou soutient, on le sait, militairement le régime de Bachar el-Assad depuis 2015 maintenant. Cette base est à 85 km au sud de la ville de Latakié et c'est la seule emprise militaire russe sur la Méditerranée. Et puis toujours en Russie, après le rejet de la candidature du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui a appelé par ailleurs à boycotter le scrutin, le Kremlin défend ce matin la légitimité de cette présidentielle qui aura lieu en Russie en mars. La non-participation des personnes qui souhaitaient être candidats en raison de la loi ne peut en aucun cas affecter la légitimité de l'élection, déclare le porte-parole du Kremlin. Quant au porte-parole de l'Union européenne, il affirme que le rejet de la candidature de l'opposant numéro 1 à Poutine jette un sérieux doute sur la pluralité, le pluralisme politique en Russie.
La montée en puissance de l'Asie dans l'économie mondiale. Selon un institut de recherche britannique, l'Inde pourrait devenir l'an prochain la 5e puissance économique mondiale et dépasser ainsi la France et la Grande-Bretagne.
Et oui, on apprend aussi dans ce classement que la Chine pourrait même détrôner les États-Unis, bon, à l'horizon 2032 quand même, et puis la Corée du Sud et aussi l'Indonésie pourraient entrer dans ce qu'on appelle en anglais le top 10. Hakim Kasmi.
Oui, Antoine, la 5e place de l'Inde s'explique par un fort dynamisme économique avec une croissance de 6,7% encore cette année, 1,3 milliard d'habitants et une classe moyenne qui représente un tiers de la population, autant de consommateurs. Les signaux sont positifs et les perspectives aussi, comme dans les infrastructures, les transports ou l'énergie. La hausse démographique est galopante, 500 millions d'habitants en plus d'ici 2050 en Inde. Résultat, pour l'absorber, une centaine de nouvelles villes doivent être créées dans le pays. Un constat qui, en fait, est paradoxal, puisque l'économie indienne ralentit ces derniers mois, notamment avec des mesures mises en place par le Premier ministre Modi, comme la démonétisation avec la fin des petites coupures censées lutter contre le blanchiment. Pourtant, malgré tout, l'Institut britannique qui a mené cette enquête se veut positif, estimant qu'il s'agit juste d'un passage invide. Un constat que partage également l'OCDE, qui rappelle que l'Inde est le pays qui a connu la plus forte croissance des pays du G20 depuis 2014. Avec une moyenne annuelle de 7,5%. Plus globalement, la montée en puissance de l'Inde s'intègre et s'inscrit dans une tendance plus large qui verra les pays asiatiques intégrer les 10 premières places au niveau économique d'ici 15 ans. En 2032, 3 des 5 plus grandes économies mondiales seront asiatiques. Il s'agira de la Chine, de l'Inde et du Japon, et cela au détriment de la Grande-Bretagne et de la France.
Merci Hakim Kasmi. En tout cas, le développement de l'économie chinoise à la faveur du libéralisme mondial n'empiète pas sur les prérogatives de l'État communiste. La justice chinoise condamne ce matin un dissident qui s'appelle Wu Gang, a condamné à 8 ans de détention par un tribunal de la ville de Tianjin pour tentative de subversion. Il avait été arrêté en mai 2015 alors qu'il travaillait pour un cabinet d'avocats de Pékin après avoir pris fait et cause pour une femme qui avait tué à coups de couteau son violeur, mais ce violeur étant un cadre du Parti communiste chinois au pouvoir. Selon le verdict du tribunal, en montant des incidents en épingle, Wu Gang a attaqué le système national qui est le fondement de l'autorité de l'État et de la Constitution. Et pour un de ses avocats, les autorités ont simplement voulu avec lui faire un exemple. La correspondance à Pékin, Angélique Forget.
Les charges retenues contre lui étaient particulièrement lourdes. Subversion du pouvoir d'État, trouble à l'ordre public, tentative de renverser le système politique du pays. Au total, Wu Kan était jugé dans 12 affaires différentes. Le militant des droits de l'homme organisait régulièrement des manifestations devant les tribunaux où il dénonçait les abus de pouvoir. Pour cela et pour les propos qu'il tenait sur les réseaux sociaux, il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement, une peine bien trop lourde, estime son avocat, que Yongxi joint par téléphone.
Rien de ce qu'il n'a fait ne va à l'encontre de la loi. Aucun de ses actes n'est criminel. Même un jour de prison, cela aurait été trop. Alors 8 ans, c'est pire.
Wu Kan est l'un des derniers protagonistes du mouvement des 709 à avoir été jugé. Le mouvement 709, c'est le nom donné aux 200 avocats et défenseurs des droits de l'homme arrêtés autour du 9 juillet 2015. Que Yongxi, avocat de Wu Kan.
La condamnation de Wu Kan à 8 ans de prison est la condamnation la plus forte pour l'instant pour un membre du 709 parce qu'il a refusé de plaider coupable.
Quelques jours avant l'ouverture de son procès, Wu Kan avait annoncé s'attendre à ce que sa peine soit lourde dans la mesure où il a refusé d'enregistrer ses confessions à la télévision publique, une pratique courante dans la Chine de Xi Jinping.
Angélique Forget.
Toujours en Chine, pardon Antoine, le Conseil d'État publie un avis pour limiter la population de la ville de Shanghai à 25 millions d'habitants, un chiffre qui est déjà dépassé.
Et oui, c'est une politique globale du pouvoir chinois que de chercher comme ça à lutter contre ce qu'on appelle là-bas la maladie de la grande ville. De quoi s'agit-il, Magali Fichter ?
Eh bien, la maladie de la grande ville en Chine, c'est ce qui se passe lorsqu'une mégapole subit les effets de la surpopulation. C'est le cas à Shanghai, on le disait, c'est le cas aussi à Pékin où les autorités ont aussi annoncé en septembre vouloir limiter la population à 23 millions d'habitants en 2020, alors qu'elle a déjà dépassé 21,5 millions. En fait, il y a au moins 50 villes en Chine qui comptent plus d'un million d'habitants. Alors, ces effets de la maladie de la grande ville, quels sont-ils ? Des effets environnementaux, tout d'abord. Rappelons qu'en 2014, déjà, 4 Chinois mouraient chaque jour à cause de la pollution de l'air. Des effets au niveau de la congestion routière, des embouteillages sans commune mesure avec ce que l'on connaît en Europe. Enfin, une pénurie de services publics, notamment en matière d'éducation et de santé. Cette surpopulation est notamment liée à la migration des travailleurs ruraux. On les appelle les Mingong. Ils fuient la pauvreté des campagnes pour rejoindre les grandes villes. On estime leur nombre à plus ou moins 200 millions, mais ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ce sont les premiers à subir le plan de lutte contre la maladie de la grande ville, car le gouvernement commence par démolir les bâtiments souvent illégaux où ils vivent. À Pékin, par exemple, les autorités ont coupé l'eau, l'électricité et le chauffage dans certains quartiers en plein hiver, il y a quelques jours, pour pousser les habitants à partir. On peut imaginer qu'il en sera de même pour Shanghai. Tout ça pour un effet limité, selon certains experts, pour qui on peut difficilement aller contre la croissance démographique. Toujours à Shanghai, les autorités voulaient déjà limiter la population à 19 millions en 2007 et en 2010, elle avait déjà grimpé à 23 millions.
Magali Fichter, merci beaucoup. L'intersyndicale du site grenoblois de General Electric Hydro avait appelé vendredi, on s'en souvient, l'État à mobiliser son pouvoir d'influence pour tenter de convaincre la direction de l'entreprise de revoir un plan social qui toucherait environ 40% des effectifs. Ça fait quand même 345 postes. La direction de GE Hydro soumet donc aujourd'hui même ce plan de transformation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et cette direction devra se prononcer sous 15 jours. Annabelle Crollier, bonjour.
Bonjour
Antoine. Est-ce que les autorités, les pouvoirs publics, le gouvernement veulent intervenir dans cette affaire ?
Eh bien, le gouvernement peut intervenir, mais le fera-t-il ? C'est la question en effet. Le gouvernement, à la mi-décembre, avait jugé que jusqu'à présent, le groupe américain avait tenu ses promesses après le rachat du pôle énergie d'Alstom, notamment en termes de création d'emplois. Et le prochain comité de suivi est prévu dans le courant du deuxième trimestre 2018. Il y a donc fort à parier que le plan social prévu chez General Electric Hydro ne soit réellement freinée. Rappelons que General Electric Hydro est une des trois co-entreprises qui avait été créée en 2014 lors du mariage avec Alstom et lors du rapprochement avec Siemens. Le groupe français avait déjà suggéré qu'il vendrait toutes ses parts qu'il détenait encore dans ces trois co-entreprises. Ses participations avaient alors été chiffrées à un total d'environ 2,5 milliards de dollars. Le produit de ces ventes doit notamment permettre de verser aux actionnaires un dividende extraordinaire à l'occasion de la prise de contrôle par Siemens d'Alstom. À l'heure de la transition énergétique, il semble impensable que la filière hydraulique, première source d'énergie renouvelable en France, ne reçoive pas le soutien de l'État, estiment les syndicats, qui rappellent que l'un des objectifs du plan stratégique initié par la direction de General Electric Hydro consiste à délocaliser une partie de la conception et de la production des turbines, par exemple en créant des plateformes au Kenya ou en Turquie pour se rapprocher de ces marchés, ou en confiant la fabrication des pièces réalisées jusqu'ici à Grenoble à des usines en Chine, en Inde et au Brésil. L'État doit reprendre la main, affirme l'intersyndicale. Il a avalisé la création des co-entreprises et doit maintenant racheter les parts détenues par Alstom. Une prise de contrôle partielle qui n'est pourtant pas à l'ordre du jour du gouvernement, Antoine.
Merci Annabelle Grolli. Un tout petit mot de politique encore. Cet hommage assez inattendu de l'ancien directeur de campagne de François Fillon au chef de l'État, invité de France Info. Patrick Stefanini estime que la droite a beaucoup à apprendre d'Emmanuel Macron, qui a, selon lui, restauré le prestige de la fonction présidentielle, élevé le niveau. Il élève le niveau notamment sur la question de l'immigration, affirme M. Stefanini, en se tenant loin de la position traditionnelle de la gauche, habituellement dans le déni. Fin de citation. 12h46, seconde invitée donc de cette semaine pour retrouver le fil de l'actualité avec la philosophe Myriam Revaud-Dallone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment on va faire tenir ensemble ces différentes informations qui nous parviennent du monde entier aujourd'hui? Vous avez choisi de tirer un fil qui permet peut-être en tout cas d'englober un grand nombre de questions et en tout cas de faire un petit tour du monde, c'est la question démocratique. Le premier constat peut-être qu'on peut faire, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec la Russie notamment, c'est que le libéralisme triomphant ne rend pas plus libres les citoyens de ces pays dictatoriaux ou régimes autoritaires. Ça s'explique, j'imagine.
Oui, c'est une évidence. D'ailleurs, ça va tout à fait contre... au fond, ce postulat de la doctrine communiste qui disait qu'une fois que l'exploitation économique aurait disparu, le paradis sur Terre serait réalisé et, les individus, l'homme générique pourrait se réaliser. Donc, alors, dans le cas de la Chine, il n'y a rien de nouveau dans ce que l'on vient d'apprendre, puisqu'on sait que ce libéralisme économique en expansion, qui d'ailleurs se fait uniquement au profit des classes moyennes, et pas du tout des paysans pauvres, puisqu'on a vu à propos de la maladie de la grande ville que c'était en grande partie lié à l'exode rural des paysans extrêmement défavorisés dans les régions pauvres et qui vivent dans la plus grande misère. Ça c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, le régime autoritaire, parce que je ne sais même plus si on peut l'appeler encore un régime communiste, le régime autoritaire post-communiste, n'a jamais cessé de brider les libertés individuelles, la liberté d'expression.
Malgré
le développement économique.
Qu'on dise que la verticalité disparaît.
Absolument, oui. Tout à fait. Et par exemple, il faudrait ajouter à ceci que non seulement les dissidents sont régulièrement condamnés, mais que par exemple récemment, 13 000 sites internet ont été fermés depuis 2015 et plus de 10 millions de comptes ont été suspendus. Donc c'est à tous les niveaux que s'énonce cette... Et alors, puisque vous avez parlé du développement de l'Asie, je voudrais quand même, à propos de l'Inde, faire une petite remarque. L'Inde a toujours été considérée comme un grand modèle de démocratie en Orient. Or, depuis 2014, le Premier ministre est un nationaliste, qui est Narendra Modi. Et il semblerait que la montée du nationalisme hindou engendre un certain nombre d'inquiétudes chez certaines minorités, en particulier les chrétiens, les musulmans. Donc même dans un régime qui n'était pas soupçonnable de n'être pas une démocratie, il y a quelques inquiétudes à se faire.
Voilà pour les grands pays d'Asie. Il y a une seconde catégorie de pays, j'aimerais bien qu'on en parle, c'est ceux où on a l'impression que peut-être les fondements de la démocratie pourraient à terme vaciller, et ce sont des pays qui ne sont pas éloignés de nous, ce sont des pays qui, en Europe centrale par exemple, la Pologne, la Hongrie, je crois que vous avez été récemment.
La Pologne et la Hongrie, et alors là aussi, ce n'est pas sans rapport avec le fait que ce sont des pays qui ont été soumis à la domination communiste pendant un certain temps, et moi, il y a déjà très longtemps, j'avais travaillé un peu avec les dissidents, clandestinement, voilà. Et comme a dit, au fond, il semblerait, puisque je suis retournée très récemment en Hongrie et en Tchécoslovaquie, que les séquelles, d'une certaine façon, de ce régime n'est pas, n'est pas totalement disparu. Qu'elle n'est pas totalement disparu, et que d'une certaine façon, quelque chose de ces démocratures ou de ces démocraties libérales se greffe sur un terreau où n'avait pas été pratiquée l'expérience démocratique. Hein. Alors, dans ces pays, il y a quand même des atteintes très profondes à des principes fondamentaux de la démocratie, à commencer par la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le fait que le pouvoir exécutif ne doit pas empiéter sur l'autorité judiciaire. Or, on sait qu'en Pologne, il vient de se passer des choses extrêmement graves, qui sont que, par exemple, le procureur doit être nommé par le ministre de la Justice. On a des manifestations d'extrême droite extrêmement violentes qui sont plus que tolérées, mais qui sont, je ne dirais peut-être pas encouragées, mais en tout cas, au moins largement tolérées par le pouvoir. Et donc là, il y a un certain nombre d'inquiétudes à se faire sur ces démocraties qui, apparemment, par exemple, il y a un Parlement, mais le Parlement peut être réduit à une chambre d'enregistrement. Il y a des élections, mais on sait que les élections, ça n'est pas le tout de la démocratie. Il suffit de se souvenir de la façon dont le NSDAP, le parti d'Hitler, a été porté au pouvoir par des élections légales. Donc là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes sur la conception que l'on doit se faire de la démocratie.
Alors, voilà. plus grave peut-être, chose. Là, il faudrait qu'on nous garde quelques minutes pour parler des démocraties qui continuent à fonctionner, les démocraties occidentales, la France par exemple, où on assiste quand même à une sorte de dépolitisation du débat qui a été initiée en partie par le chef de l'État, inscrite peut-être dans ce slogan « ni gauche ni droite, ni à gauche ni à droite, mais ailleurs », et qui pourrait engendrer, qui engendre déjà peut-être des phénomènes que vous appelez, vous, de dédémocratisation.
De dédémocratisation ou de dépolitisation, c'est-à-dire que, enfin, moi je pense que ni gauche ni droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gouverner au centre. Or le centre, c'est quand même une position politique, c'est pas rien du tout. Ou bien ni gauche ni droite, en général, on peut penser aussi qu'en général, quand on dit ni gauche ni droite, ça veut dire qu'on est à droite. Bon, donc, c'est ce qui est un petit peu préoccupant, c'est un processus au fond de dépolitisation des esprits, je dirais, parce qu'il n'y a pas du tout d'atteinte aux procédures démocratiques en tant que telles, sauf à considérer que l'intervention des services de police dans les lieux de refuge des migrants sont quand même une atteinte à un certain nombre de principes fondamentaux. Mais il y a quelque chose qui relève, je dirais, plutôt de l'usure de la subjectivité démocratique ou de l'usure psychologique des citoyens démocratiques qui, au fond, se sont au moins, pendant un certain temps, peut-être que ça va changer, satisfaits d'avoir une certaine nouveauté du personnel politique remplacé incarné par quelqu'un qui est jeune, comme si le fait d'être jeune pouvait se substituer à une position politique précise, en attendant une espèce de nouveauté d'une politique dont, au fond, on ne voit pas très clairement la visée à long terme, tellement elle inclut des mesures un peu contradictoires.
En tant que philosophe, ancien monde et nouveau monde, ça signifie quelque chose dans les catégories de la pensée?
Ancien monde et nouveau monde, la rupture ne signifie pas grand-chose dans la mesure où il n'y a jamais de nouveauté ex nihilo. Et dans la mesure où le commencement c'est toujours quelque chose qui, au fond, s'enracine quand même dans du passé. Et on ne peut pas non plus faire des projections sur l'avenir quand on n'a pas de mémoire. Ça, c'est ce que je retiens de façon fondamentale.
Alors justement, est-ce que le nouveau monde, ce n'est pas un monde sans passé,
c'est
sans projection sur l'avenir?
Je crains fort qu'une certaine utilisation du mot « nouveau » ou « nouveau monde » ne signifie, ne renvoie à une certaine vacuité et à une absence, au fond, de vision qui repose sur une absence de mémoire.
Donc, si on fait le bilan global, on a peu de raisons de se réjouir la démocratie, qui est peut-être une idée qui va disparaître.
On a beaucoup de raisons de s'inquiéter, je pense. Et pour moi, la démocratie, c'est pas un régime parmi d'autres. Je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la mesure où c'est pas simplement un régime. C'est peut-être la seule manière pour les individus modernes, d'exister ensemble en respectant à la fois la séparation d'individus, la pluralité et un certain nombre de valeurs fondamentales, disons un mode d'existence qu'on peut qualifier de politique.
Merci beaucoup. Oui, alors, vous voulez terminer?
Alors, que ce régime entraîne de la déception, c'est absolument évident, mais cette déceptivité, je pense qu'elle est structurelle.
Voilà, et peut-être qu'elle va faire revenir quand même l'idée démocratique à un moment donné. Merci beaucoup, Myriam Revaud-Allonne, d'avoir accepté de participer à cette série donc d'entretiens. Demain, nous serons avec le philosophe Dany Robert Dufour. Deux perturbations successives vaudront au pays de connaître partout un temps perturbé, pluvieux et aussi venteux, des températures qui varieront de 7 à 16 degrés. C'est une édition qui s'achève, qui a été réalisée avec Emmanuel Faucillon. Et le prochain journal est à 18h avec Lise Verbeck.